Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et Michel Poitevin qui est au bout du fil. Bonjour Michel.
Bonjour Hélène.
Michel qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Vous vous êtes intéressé au projet du troisième lien. Là, ça refait partie de l'actualité.
Ben oui, c'est on a l'impression que ça revient toujours.
Oui.
Donc, ce qui est arrivé à la fin du mois de juin, le gouvernement de la CAQ a lancé un appel à intérêt lancé à l'international. Donc, on veut voir s'il y a des consortiums là, à l'échelle mondiale qui sont intéressés pour ce projet. Leur intérêt, ceux qui sont intéressés, doivent être manifestés avant le 10 août. Donc, on donnait 45 jours là, de la fin juin jusqu'au 10 août. On n'a pas tous les détails sur les coûts puis le tracé, là, c'est pas encore établi. Ce qu'on pense savoir, c'est que le tracé serait plus à l'est que ce qui était prévu, donc plus proche de l'île d'Orléans. Et apparemment, avec un tel tracé, le pont serait plus long et plus haut que le Golden Gate à San Francisco. Une région où il y a 7,5 millions de population. Mais nous, on aurait un plus gros pont.
Alors, ouais.
Pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est que hier, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, la section infrastructure, a dit qu'elle n'était pas intéressée par le projet. Donc, on se rappellera cette division de la Caisse là, des infrastructures. C'est elle qui a piloté le projet du REM à Montréal. En espèce de PPP, le partenariat public-privé. Et puis récemment, elle avait fait l'acquisition de la concession A25, donc le péage sur l'autoroute 25 qui relie Montréal et Laval, un petit peu plus dans l'est de la ville. Donc, la Caisse de dépôt est intéressée d'habitude par des genres de projets d'infrastructure comme ça, quand on a une entente où on peut, si vous voulez, rentabiliser l'infrastructure. Dans le cas du REM, ben, il y a les billets que les usagers doivent acheter. L'autoroute 25, il y a le péage. Dans le cas du troisième lien, on a déjà ouvert la porte à la fin juin. Je pense que c'était la première fois. On disait, ben, peut-être qu'on pourrait considérer un péage parce que là, ils veulent attirer le privé dans le projet. Mais là, on se rend compte que malgré ça, la Caisse de dépôt n'est pas du tout intéressée. Je pense que ce qui arrive, puis la plupart des experts sont contre, c'est que d'une part, le tracé trop à l'est, on se dit ben c'est trop loin des centres d'emploi, possiblement même des usagers. Puis le projet coûterait aurait des coûts faramineux. Là, là. Il y a quelques années, là, je pense en 2022, on estimait à 7 milliards, puis là, on est rendu à 10, de 10 à 15 milliards. Certains avancent même le coût de le chiffre de 20 milliards. Là. Mais même avec un coût, je dirais, conservateur de 10 milliards, c'est énorme pour la population de Québec. Là. J'avais fait, il y a une couple d'années, j'ai actualisé ce matin des petits calculs que j'avais faits. Supposons que le projet coûte 10 milliards puis qu'il y a un achalandage de 50 000 passages par jour. Ce qui est énorme, là, c'est ce qu'on a sur l'autoroute 25 avec une population beaucoup plus élevée que Québec-Lévis, là, Montréal et Laval. Et puis, si en supposant que le projet dure 80 ans, puis là, j'avais mis là-dedans des coûts d'entretien, puis aussi un réinvestissement après 40 ans, j'avais calculé quel est le payage que les gens devraient payer pour que ça soit rentable. C'est-à-dire qu'on couvre tous les coûts associés au projet. Puis le payage, ça serait environ 15 $ par passage. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est à Lévis, qui travaille à Québec, devrait payer 30 $ par jour pour que le projet soit viable. C'est ce qui est énorme. Là. Alors, on se rend compte que la Caisse de dépôt, j'imagine, avec des chiffres semblables, se dit non, on ne pourra jamais rentabiliser ça. Il n'y a personne qui va payer 30 $ par jour pour aller travailler à Québec alors qu'il y a d'autres ponts gratuits.
Mais malgré tout ça, oui.
Oui.
Malgré tout ça, il y a Bernard Drainville, le ministre de l'économie, là, qui s'est Bien, peut-être qu'il s'est mis le pied dans la bouche, là. Il a dit ou presque, c'est la chronique aujourd'hui, on en parle dans l'actualité, mais le titre de la chronique de Patrick Lagacé aujourd'hui, c'est « Lâchez-moi avec les experts », un clin d'œil à une autre réplique peut-être malheureuse là, de Bernard Drainville qui avait dit « Lâchez-moi avec les GES ».
Oui, avec les GES, un peu pour le même projet. J'ai cette citation exacte, il dit « Moi, je suis un peu tanné de tous ces experts qui ne sont jamais pour le projet, qui sont toujours contre. » Ils ont peut-être des raisons. Moi, je suis avec la population, je représente la population de Lévis et de Chaudière-Appalaches et de façon générale la grande région de Québec. Et les gens le veulent, on en a besoin, on sait qu'on en a besoin.
En tout cas, lui, il en a besoin. Lui, il tient.
Il en a besoin s'il veut se faire élire, ça, c'est clair. Mais en même temps, on ne peut pas justifier n'importe quel projet juste avec un besoin. C'est sûr que si on parle aux gens du projet, ils en ont besoin. Et si on leur disait combien ça leur coûterait, il y en aurait peut-être moins besoin. Là.
Ouais. En as-tu vraiment besoin, comme dirait l'autre?
Oui, c'est ça. C'est une rigueur c'est déficiente. Là. Je trouve ça vraiment
ça ressemble un peu à de la démagogie aussi. Là.
Ah, c'est complètement déprimant. Puis Mme Fréchette est plus prudente, mais en même temps, elle a l'air de... Elle dit qu'on a besoin d'une implication privée. Donc, moi, je vois ça un peu comme une porte... Est-ce qu'elle se préfère une porte de sortie? Dit, si le privé n'embarque pas, moi, je n'embarque pas. Je ne sais pas, mais en même temps, le gouvernement va de l'avant. Ils viennent de lancer cet appel à intérêt, là, puis elle dit qu'elle s'attend des propositions intéressantes. Mais déjà, la caisse de dépôt, là, qui aurait été peut-être, là, si on avait voulu faire le projet, le partenaire le plus normal, là, c'est la caisse de dépôt, c'est de chez nous. Ils sont habitués à faire des projets d'infrastructure que partout, un peu partout dans le monde. Là, il y en a au Québec avec le REM et tout ça. Puis même si eux ne sont pas intéressés, tu dis qui ça va intéresser, à moins que le gouvernement paye une part démesurée des coûts. Là. Donc on va le savoir un peu plus autour du 10 août, qu'est-ce qui arrive avec ça. Mais c'est sûr qu'en période financière où c'est pas si facile, puis un peu comme vous le disiez, comme le mentionnait Patrick Lagacé, nos infrastructures sont un peu en piètre état. Les infrastructures existantes, les hôpitaux, les écoles ont besoin de réinvestissement. Est-ce que c'est vraiment une bonne décision de mettre 10 à 15 milliards dans un tel projet? Là?
On verra le 10 sous, mais ça va coûter plus que 10 sous. Michel, parlant de finances publiques, il y a aussi de grosses annonces du côté d'Ottawa.
Ben oui, ça concerne cette fois-ci pas le transport, mais la défense. Donc, hier, on a annoncé que le Canada a choisi la société allemande ThyssenKrupp Marine System, TKMS, pour lui fournir sa prochaine flotte de 12 sous-marins. Dans le Canada, on est entouré d'océans, le Pacifique, l'Atlantique puis l'océan Arctique. Puis en ce moment, on a 4 vieux sous-marins, puis apparemment, sur les 4, il y en a à peu près juste un qui est opérationnel. Bon.
À peu près ou un?
Bien, il disait un, là, mais là, je ne sais pas ce que ça veut dire on en a 4, mais il y en a juste un qui marche. Moi, j'aurais dit, bien, on en a juste un, mais donc, c'est pour ça que je dis à peu près, mais je pense que c'est un, effectivement. Là.
Bon. Ça fait du devoir d'aujourd'hui. Là. Pourquoi Ottawa a-t-il misé sur TKMS pour ses sous-marins?
Exactement. Puis là, on dit, bien, c'est sûr que c'est un coût très élevé. Là, on dit que la facture pourrait s'élever à 80 milliards. C'est énorme, mais c'est sûr, je veux dire, plusieurs décennies. Mais en même temps, on se rend compte qu'on s'est souvent appuyé sur notre voisin américain pour assurer notre sécurité. Puis là, on a l'impression que la béquille est moins présente.
Ils sont moins fiables, mettons.
Exactement. Donc, le gouvernement canadien, puis on sait que l'Arctique avec les réchauffements climatiques va devenir de plus en plus intéressant. Souvent, on voit des articles où les Russes sont de plus en plus présents, puis ils manifestent leur présence parce que eux, c'est sûr qu'il y a une grosse partie de l'Arctique qui leur appartient là, géographiquement, mais le Canada aussi, la Norvège également. Donc, peut-être qu'on en a besoin, ces sous-marins-là. Malheureusement, c'est ça, le contexte géopolitique mondial fait qu'on est obligé d'investir dans nos armées. On ne voudrait pas, mais en même temps, peut-être qu'on n'a pas le choix. Pour dorer la pilule, Mélanie Joly a affirmé que ce serait 110 000 emplois qui vont être créés en lien avec ce contrat-là, puis 250 000 autres qui découleraient de partenaires industriels que TKMS, avec qui TKMS a conclu des ententes. Là. Donc, je pense qu'au moins le fédéral, ce qu'il avait mis dans la... Il voulait s'assurer que l'économie canadienne en bénéficierait, pas juste la défense, le ministère de la Défense. Donc, ils sont assurés que TKMS avait des ententes avec des partenaires canadiens et donc on aurait des retombées là, en termes d'emploi, d'investissement local et puis possiblement de technologie. Ça, de façon plus globale, là, ça renforce le partenariat souhaité entre le Canada et l'Europe, encore une fois, la géopolitique ou au comportement américain. On se souviendra tous du fameux discours de Mark Carney à Davos. Et puis, ben, ça va un peu dans cette veine-là de dire que ben, là, on ne prend pas un partenaire américain, mais un partenaire allemand pour construire nos sous-marins. Dans un autre dossier connexe, celui des avions de chasse, il y a quelques années, on avait conclu, le gouvernement canadien, une entente pour 88 appareils F-35 de la compagnie Lockheed Martin pour à peu près 28 milliards de dollars. Avec le comportement, la guerre commerciale américaine, ben, le Canada a commencé à regarder ailleurs, puis apparemment, on serait tenu avec le contrat d'en acheter au moins 16 de Lockheed Martin, mais on n'a pas un engagement sur les 88. Donc, on considère la compagnie Saab, là, je ne sais pas s'ils font encore des autos, ça doit exister encore un peu, mais il y a plusieurs années, les Saab, des autos suédoises. Donc, Saab, c'est une compagnie suédoise. Puis là, ils sont approchés pour voir s'ils pourraient nous fournir le reste de 16 ou peut-être couper la poire en deux, on pourrait en commander 30 de Lockheed Martin.
Oui, bien, vous dites Lockheed, mais c'est Lockheed, hein?
Ou Lockheed, je ne sais pas, ça s'écrit L-A-U-G-H-E-E-D.
Ah, ben moi, j'ai L-O-C-K-H-E-E-D devant moi, Martin.
Ah oui, OK. Écoutez, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression, en tout cas, c'est cette compagnie-là,
ouais.
Lockheed Martin.
L-M.
Moi, ça, je l'appelais LM dans les notes, là, donc oui. LM. Puis, donc, en prendre 30 de LM, puis 60 de Saab. Et puis là, ben, LM serait victime des politiques tarifaires de Trump parce qu'il perdrait une partie de ce contrat-là sur lequel, j'imagine, il comptait. Puis Saab a déjà des partenariats avec Bombardier pour un autre type d'avion. Alors, ce serait un partenaire facile à... ou une entente facile à faire avec Bombardier pour et donc Bombardier, donc il y aurait une partie des avions qui seraient assemblés ou construits au Québec. Puis apparemment, il y aurait un contrat également d'entretien avec Bombardier pour ces avions.
Bon. Alors, c'est de bon augure.
Oui, donc c'est ça. J'essayais de trouver, ça m'intrigue, ce Lockheed.
Oui, moi aussi, ça m'intrigue, mais j'ai vraiment... quand vous l'avez dit... Oui, Mathieu?
J'entends très souvent Lockheed, en fait. J'ai jamais entendu l'autre version.
Non, c'est ça, puis...
C'est une question d'orthographe ou juste de...
Non, mais c'est la prononciation et l'orthographe. L-O-C-K-H-E-E-D. Mais on s'en parle s'il y a lieu. Merci, Michel.
Oui. Bon, bien, ça va.
C'était très bon. Bye-bye.
Au revoir.